Bonjour à tous. Merci d'être là très nombreux pour cette très belle question. Et si les humains n'avaient pas besoin de dormir ? Vous savez que nous passons un tiers de notre temps à dormir. C'est entre 7 et 8 heures par jour que nous récupérons, que nous dormons, que nous rêvons. Plusieurs études montrent aussi, vous savez, que ce temps passé à dormir a diminué au cours du temps, au cours des 50 dernières années. Nous avons perdu environ 1h30 de sommeil en 50 ans. Au profit de quoi ? Au profit du travail et des écrans. Vous savez aussi que c'est valorisant de dormir moins et donc de travailler plus, de faire plus de choses, de réussir dans la vie. Il y a des images là qui tournent, on parle de la ville qui ne dort jamais pour New York et maintenant pour la plupart des mégalopoles partout dans le monde. Dans certaines professions, la prise de drogue qui permet de ne pas dormir est devenue assez courante. Et bientôt, peut-être, un de ces jours, on manipulera des gènes, nos gènes, pour peut-être améliorer notre résistance au manque de sommeil. En effet, cette année, le prix Nobel de physiologie et de médecine a été attribué à 3 personnes, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, pour leurs travaux sur les gènes qui régulent nos rythmes biologiques avec le rythme circadien, l'alternance de jour et de la nuit. Alors, à quand la manipulation de ces gènes ? Peut-être qu'on le dira avec nos intervenants. Alors, pour discuter de cette question, j'ai tout de suite avec moi Olivier Gechter, qui est auteur de science-fiction, qui est l'inventeur de ce héros, le Baron Noir, justicier. Peut-être qu'il ne dort pas beaucoup. Justicier et qui se munit d'un exosquelette pour pouvoir être plus fort. Nous avons Sylvain Chambon, également auteur de science-fiction, qui a fait des études de biologie et qui est consultant en informatique, en particulier sur les bases de données. Nous avons Perrine Ruby, qui est neuroscientifique spécialisée dans le sommeil, qui travaille au Centre de neurosciences de Lyon, un laboratoire associé INSERM et CNRS et l'Université Claude Bernard de Lyon 1, et qui pourra nous parler du sommeil et des rêves. Et nous avons Damien Daven, professeur à l'UFR Sciences et Techniques des activités physiques et sportives de l'Université de Caen, et qui dirige une unité de recherche à l'INSERM et à l'Université de Caen Normandie, et dont les travaux concernent les rythmes biologiques chez l'homme. Alors, messieurs, dames, si nous n'avions plus besoin de dormir, à quoi passeriez-vous personnellement votre temps, le temps que vous gagnerez à ne pas dormir? Qui veut se lancer? Est-ce que vous écririez plus? Est-ce que vous iriez sauver la veuve et l'orphelin?
Alors, c'est très piégeux pour un gros dormeur comme moi de répondre à ce type de question, vu que c'est une de mes grandes passions dans la vie, c'est de dormir. Mais je pense que, effectivement, si je pouvais dormir vraiment moins ou plus du tout, je passerais plus de temps à écrire, ce qui me permettrait de faire plaisir à mes éditeurs qui se demandent ce que je fais généralement.
J'aimerais bien pouvoir dire que j'écrirai plus. En pratique, je me connais. Je lirai des bouquins, je perdrai du temps sur Internet, je ferai des bêtises. Et en fait, la question est un peu plus compliquée que ça parce que, certes, j'ai pas besoin de dormir, ok. Mais est-ce que je suis fatigué pour autant? Parce que bon, à la fin de la journée, quand je rentre du boulot, je suis crevé, absolument crevé. Je peux rien faire. Donc, si c'est pour se retrouver dans la même situation et en plus insomniaque, je préfère encore dormir. Hein.
Alors, peut-être que par ne plus avoir besoin de dormir, ça sous-entend ne pas en être fatigué. Ou alors, est-ce qu'on dissocie le fait d'être fatigué et le fait d'avoir besoin de dormir? Peut-être que vous pourrez nous dire ça, les scientifiques. Déjà, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous gagniez tout ce temps passé à dormir ?
Avec ce que je sais aujourd'hui du sommeil, je n'ai pas du tout envie d'arrêter de dormir. C'est-à-dire, le sommeil, c'est aussi lutter contre la fatigue, mais c'est tellement d'autres choses qui se passent pendant qu'on dort qu'on va forcément, si on arrête de dormir, se priver d'énormément de choses. On va avoir une qualité d'éveil de très mauvaise qualité et donc, j'y tiens pas du tout.
Perrine ?
Oui, alors évidemment, j'adhère à ce qui vient d'être dit, mais si on se place dans le cadre de l'imaginaire, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces rencontres-là, c'est qu'on peut faire comme si. Et si effectivement c'était possible d'être en bon état sans dormir, effectivement, ça ouvre de nouvelles perspectives. Ça nous rajoute un tiers de vie en plus. Et du coup, on peut se dire, ben oui, on peut augmenter toutes nos expériences, on peut utiliser ce temps à faire plein de choses très bien. Mais en même temps, on sera toujours mortel, parce que là, on parle juste de plus dormir, pas d'être immortel. Et du coup, c'est un peu... moi, ça m'évoque une espèce de course-poursuite qui s'arrête de toute façon jamais. Je veux dire, il y a toujours une limite. Même si on se rajoute 8 heures par 24 heures pour faire des nouvelles choses, on fera jamais toutes les choses qu'on veut faire quand même. Et à la fin, on mourra. Et du coup, à ce titre-là, moi, ça m'évoque un peu un effet de consommation que je trouve un peu effrayant. Un petit peu maniaque. Et du coup, si on enlève tout le côté bénéfique de ce qu'apporte le sommeil d'un point de vue physiologique, je trouve le côté cognitif est quand même très intéressant. La rythmicité que ça apporte et le recul que ça permet de prendre sur la journée précédente. Souvent, quand on se lève le matin, on ne voit pas la journée précédente de la même manière pour plein de raisons. Et du coup, faire des pauses. Je trouve que c'est quand même intéressant et de toute façon dormir c'est beaucoup de plaisir, donc effectivement je rejoins un peu tout le monde, je signerai pas tout de suite pour arrêter de dormir.
Alors justement, ça sert à quoi de dormir, les scientifiques? Damien Daven,
à quoi ça sert? D'abord à récupérer. Voilà. N'importe quelle cellule vivante, et je pense que c'est la définition du vivant, une cellule est active. Et elle ne peut continuer à être active que si elle se repose, que si elle s'arrête à un moment donné. Il y a même des collègues qui se sont amusés à calculer le temps d'activité d'une cellule dans une boîte de pétri. Et ils se sont rendus compte qu'une cellule passe 2/3 de son temps à être active et 1/3 du temps à récupérer. Et le gros paquet de cellules qu'on est, c'est exactement ça sur 24 heures. 24 heures, c'est une base de temps qui a été déterminée par la rotation de la Terre sur elle-même. Et toute la physiologie s'organise sur ces 24 heures. En 24 heures, on a 16 heures d'activité et 8 heures de récupération. Mais toute cellule de l'organisme a besoin de récupérer, consolider. Récupérer, ce n'est pas revenir à zéro. Récupérer, c'est surcompenser. C'est-à-dire que quand on a fait travailler un muscle, quand il récupère, il devient plus fort. Et c'est pareil pour toutes les cellules de l'organisme. Donc quand on fait dormir nos cellules, tout ça se passe. Alors, il y a de la cognition, il y a de la physiologie, il y a de la croissance, il y a plein de choses qui se passent pendant ces 24 heures qui ne peuvent se passer que si on met l'organisme au repos. Et le sommeil, il sert à ça.
Perrine Ruby, le sommeil, ça sert aussi à rêver ?
Alors, j'aime beaucoup comment vous formulez la question parce que, au-delà des. Effectivement, le sommeil a énormément de fonctions, c'est difficile de toutes les lister. Je pense qu'on peut volontiers le synthétiser et le résumer un peu sous le terme de régulation. En fait, ça régule énormément de phénomènes. Et notamment tout ce qui est émotionnel. Donc c'est pour ça que très souvent, quand on a vécu quelque chose de difficile la journée, on le voit avec plus de philosophie le lendemain. Donc il y a beaucoup d'arguments actuellement scientifiques qui vont dans le sens d'un rôle du sommeil dans la régulation émotionnelle. Et on sait que le rêve se passe pendant le sommeil. Et du coup, on peut se dire que l'état physiologique sommeil et le rêve, c'est un peu les deux faces de la même pièce. Et du coup, si on se dit ça, on se dit qu'on devrait voir dans le contenu du rêve, en fait... Des témoignages de cette régulation émotionnelle. On devrait pouvoir le voir d'une manière ou d'une autre. Et dans une étude qu'on a faite récemment, on a vu quelque chose de ce goût-là. puisque du coup, j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui se souviennent de leurs rêves et donc qui voient bien ce que je veux dire quand je leur parle d'un rêve qui est éventuellement bizarre, qui mélange beaucoup de choses de leur vie éveillée de manière éventuellement incohérente et éventuellement avec des émotions du coup plutôt négatives. Mais quand on va essayer de chercher dans le contenu du rêve les éléments spécifiques qui rappellent quelque chose qui s'est passé dans la vie éveillée et qu'on demande aux participants de donner une note émotionnelle à cet événement qui s'est passé dans la vie éveillée et puis après de donner une note à la version rêvée de cet événement, ben on se rend compte que la note a changé. C'est-à-dire que quand on rêve de l'événement qui s'est passé de la vie éveillée, et ben son intensité émotionnelle est diminuée. Et ça marche aussi bien pour les choses qui sont négatives que pour les choses qui sont positives. Et du coup, cette étude, elle nous a montré que le sommeil et le rêve, c'est la même chose pour moi, en fait, ont cette action qui permet de neutraliser un petit peu les émotions et probablement de nous permettre d'en encaisser de nouvelles le lendemain, parce que si on restait un petit peu tout le temps au taquet, probablement que ça serait difficile, en fait, de digérer un petit peu ces émotions. Donc, effectivement, en plus d'être très distrayant, apparemment, le sommeil et les rêves ont un rôle important, au moins dans la régulation émotionnelle.
En plus, enfin, le fait que la privation de sommeil ait été autant utilisée depuis pas mal de guerres pour interroger les prisonniers montre quand même bien que le sommeil a un vrai intérêt pour la santé mentale de l'individu. Les nazis avaient commencé à faire des essais où on réveillait les prisonniers un peu n'importe quand dans des pièces complètement closes avec lumière artificielle au bout de quelques semaines. Faut pas être pressé, faut pas que ce soit urgent, hein. Il y a des techniques plus rapides. Mais au bout de quelques semaines, la personne en racontait n'importe quoi du moment qu'on lui promette de rester dormir quelques heures. Hein.
Alors Damien Daven, justement, vous menez vos recherches, peut-être pas en tortionnaire, mais en privant de sommeil vos cobayes, pour pouvoir justement mesurer les effets du manque de sommeil. Qu'est-ce que vous en tirez ?
On en tire que dès qu'on commence à être privé de sommeil, parce qu'une privation de sommeil, ça commence quand on n'a pas satisfait son besoin physiologique de sommeil. On a, et vous citiez tout à l'heure les trois auteurs qui ont eu le prix Nobel, ces trois auteurs ont montré qu'on a des gènes qui déterminent notre besoin de sommeil. Alors on est petit dormeur, on est gros dormeur, on est du matin, on est du soir, et on a aussi des gènes sur la susceptibilité à être privé de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des gens beaucoup plus résistants que d'autres à la privation de sommeil. C'est sur ces points que peut-être la thérapie génique pourrait agir éventuellement, mais c'est pas la question. Ce qu'on montre, nous, dans nos études, c'est que dès qu'on dort, si on a besoin de dormir 8 heures, qu'on dort que 6-7 heures, on voit déjà des effets, notamment sur la cognition. C'est surtout le tissu nerveux qui est d'abord affecté. Puis après, si on est privé beaucoup plus d'une moitié de nuit ou d'une nuit totale, c'est plutôt le physique commence à être affecté, mais la cognition est déjà beaucoup dégradée. Ça, c'est sur le court terme. Sur le long terme, là, on n'a pas fait des études.
Alors déjà, sur le court terme, c'est-à-dire, on a toujours l'exemple des panneaux sur la route qui nous disent si vous vous endormez au volant, surtout faites des pauses, etc. C'est déjà ça, un effet du manque de sommeil ? C'est une attention moindre ?
C'est-à-dire que si on s'endort au volant, on n'a pas le temps de faire des pauses, hein, ça c'est sûr. Mais oui, c'est ça. On a fait des études sur la conduite. Alors, bon, il y a un message, c'est toutes les deux heures, la pause s'impose. C'est un message qui n'est finalement pas très bien compris parce qu'on ne le ressent pas comme ça. La nuit, il faudrait s'arrêter plus souvent. Le jour, c'est peut-être un peu moins souvent. Bon. Mais en tout cas, le message, c'est qu'on ne peut pas faire une activité soutenue et continue pendant un certain temps. Il faut s'arrêter. C'est comme il faut toujours qu'il y ait, après de l'activité, du repos. Ça, c'est évident. Oui, oui. Mais la privation de sommeil est extrêmement dangereuse sur la route. Ça, c'est, on peut le dire, hein, mais c'est le premier facteur de mortalité aujourd'hui au volant. Parce que si on s'endort au volant, ben, 130 sur autoroute, maintenant en plus avec le régulateur, mais on va à 130 km/h dans le pilier d'autoroute qui est juste à côté, quoi. Il ne reste plus que de la bouillie.
Et alors, à plus long terme, ça, c'est assez surprenant. À long terme, le manque de sommeil accumulé ou jamais récupéré produit des effets et peut déclencher des maladies.
Alors, à long terme, et ça, c'est aussi ce que montrent les prix Nobel, à long terme, maintenant, on sait très bien que la plupart des grandes maladies chroniques sont dépendantes, au moins en partie, de la privation de sommeil. C'est-à-dire, on met en relation les États aux États-Unis, par exemple, où il y a le plus de privation de sommeil. Il y a des États où, en moyenne, les gens dorment 3 à 4 heures de moins aujourd'hui qu'il y a 40, 50 ans. Et donc, ils dorment que 4, 5 heures par nuit en moyenne. Pour un État, c'est énorme. Et dans ces États, c'est là où il y a des épidémies d'obésité qui sont extraordinaires. Parce qu'il y a une relation très nette entre les hormones qui régulent la satiété, la prise d'aliments, et le sommeil, l'activité physique. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, dans des grandes fonctions vitales, qui font que si on ne dort pas, eh bien, le corps, il va se donner le moyen de s'arrêter à un moment ou à un autre. Et c'est une maladie chronique. C'est accident cardiovasculaire, c'est du diabète, c'est etc.
Et la privation de sommeil sur le manque de rêve, est-ce que ça a un effet psychologique aussi sur l'apprentissage, par exemple? On dit souvent que les adolescents doivent avoir leur quotient de sommeil qui est un peu supérieur à celui d'un adulte. Qu'est-ce qui se passe s'il est privé de sommeil? Ça, c'est peut-être ce qui va préoccuper les parents qui voient leurs enfants souvent longtemps sur des écrans. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, vous aurez bien compris que c'est une très mauvaise idée de ne pas dormir autant que ce qu'on aurait envie de dormir. Il n'y a pas vraiment de quantité absolue qu'il faut dormir. Je parlais à un collègue qui est spécialiste de ces questions-là, aussi des cycles circadiens, qui me disait la bonne quantité de sommeil qu'il vous faut, c'est la quantité que vous dormez au bout d'une semaine de vacances, spontanément. Et c'est vrai que autant que faire se peut, il faut essayer de ne pas s'en écarter. Et effectivement, c'est beaucoup plus confortable, on s'en rend très vite compte. Après, effectivement, dans toutes les fonctions du sommeil, il y a une des hypothèses qui a reçu beaucoup d'arguments scientifiques, qui est très en vogue et très discutée, c'est le rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire. Donc ça, effectivement, pour un adolescent, n'importe qui en développement et tout au long de la vie, c'est très important de préserver cette fonction-là. Et dormir, c'est capital pour continuer à bien consolider sa mémoire. Donc, c'est sûr qu'il faut, il faut dormir. Après, tantôt, je disais que, du coup, le lien rêve-sommeil, c'est pas complètement clair. C'est-à-dire, c'est du même ordre qu'à l'éveil, l'activité du cerveau, on l'associe au contenu de la pensée, mais c'est pas l'entièreté de l'activité du cerveau qui a une résultante dans le contenu de la pensée. C'est-à-dire qu'il se passe bien plus de choses dans notre cerveau que ce qu'on est capable d'avoir conscience. Et probablement que pendant le sommeil, c'est la même chose au cours du rêve. Mais du fait qu'on ait trouvé un rôle important du sommeil dans la consolidation de la mémoire, de la même manière, on s'attendait à voir dans le contenu du rêve une expression de cette consolidation. Ou, dit autrement, il y a des chercheurs qui se sont dit finalement, quand on rêve de ce qu'on a appris la veille, on devrait mieux s'en souvenir le lendemain. Et ça, on n'a jamais réussi à le montrer. Alors, soit on a mal posé la question, soit ça se passe autrement. Effectivement, moi, j'ai aussi fait une étude pour essayer de tester cette hypothèse-là, et on n'a vu aucun lien. C'est-à-dire, ceux qui rêvaient de ce qu'ils avaient vu la veille n'avaient pas des meilleures performances le lendemain. Mais c'est probablement que la question a été mal posée. Mais en tout cas, ça ne se passe pas aussi clairement. Et après, c'est vrai qu'il y a encore une... La question est complètement ouverte sur le bénéfice de se souvenir de ses rêves. Alors, il y a une grande variabilité dans la population. Il y en a qui s'en souviennent très rarement, d'autres qui s'en souviennent beaucoup plus souvent. Et je vous rassure tout de suite, il n'y a eu aucun lien avec la cognition qui a été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ceux qui s'en souviennent souvent, ils n'ont pas de bénéfice par rapport à ceux qui s'en souviennent rarement et réciproquement. Ce qu'on a simplement vu, c'est des liens avec des traits de personnalité. C'est qu'il y a certains traits de personnalité qui sont associés avec une grande fréquence de souvenirs de rêve et d'autres avec une plus faible fréquence de souvenirs de rêve. Voilà, donc ça, c'est marrant. j'ai envie de dire, mais pas tellement plus. Et puis, après, si on devait considérer que le rêve, intrinsèquement, indépendamment du sommeil, avait une fonction, c'est pas du tout clair qu'il y ait besoin de se souvenir du rêve pour que la fonction s'applique. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu... Un des bonus, c'est pour le plaisir. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis bien triste quand je ne me souviens pas de mon rêve et je trouve que c'est extrêmement distrayant, qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs de cinéma qui arrivent à la hauteur de ça. Mais après, c'est... Du coup, en tout cas, c'est, dans l'état actuel des connaissances, on n'a pas de raison de croire qu'il y a un bénéfice de se souvenir de ses rêves ou pas.
Olivier, vous aviez...
Oui, pour un auteur, les rêves, c'est très utile. Alors moi ce que je regrette c'est plutôt mon scénariste pendant la nuit, il n'est pas très fort, le fil narratif part un peu dans tous les sens, mais ça m'arrive une fois de temps en temps d'avoir une, généralement c'est un cauchemar, c'est pas un rêve, un cauchemar tellement marquant que ça me fait une très bonne histoire et je suis sur le, d'ailleurs j'en prépare une pour une prochaine anthologie où je me suis réveillé vraiment, j'ai mis plusieurs minutes à m'en remettre. C'était vraiment un cauchemar magnifique. Et je pense que si je suis à la hauteur, on va avoir un bon texte. Ouais. Je croise les doigts. Le scénariste était fort. Hein. Ouf.
Si, rappeler deux, trois choses pratiques pour les adolescents, parce qu'il y en a beaucoup dans la salle. À l'adolescence, il y a quand même des choses qu'il faut savoir par rapport au sommeil. Alors, d'une part, le rythme veille-sommeil qui est très net chez l'enfant et très net chez l'adulte est beaucoup moins net chez l'adolescent puisque l'horloge biologique s'aplatit à ce moment-là. L'horloge biologique sur 24 heures, elle s'aplatit pour laisser arriver les horloges plus lentes du cycle de la reproduction, etc. C'est le principe de l'adolescence. Et donc, ça veut dire concrètement qu'un adolescent, il n'a jamais le signal du sommeil. Un adolescent, il peut passer une nuit blanche sans qu'il ait envie de dormir. Il aura envie de dormir que s'il est fatigué, c'est-à-dire que s'il a accumulé suffisamment d'heures d'éveil. Donc ça casse un petit peu une certaine idée que de l'adolescent qui passe une nuit blanche au détriment de ses parents, etc. Bon, et ça, c'est la première chose, il faut le savoir. La deuxième chose, c'est que donc du fait qu'il peut dormir toute la journée aussi, on ne voit jamais un adulte dormir toute la journée, mais un adolescent, on peut le voir. Hein, donc et il peut dormir à l'école. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on n'a pas dormi suffisamment... Eh bien, on est en échec scolaire. Toutes les études montrent aujourd'hui que le premier facteur d'échec scolaire, c'est de ne pas dormir suffisamment. De ne pas dormir, son besoin de sommeil. Ce qui est évident, parce que quand on n'a pas dormi, on n'est pas attentif, on n'écoute pas ce que dit l'enseignant, et ça ne marche pas. Hein, voilà. Donc, c'est ces choses-là qu'il fallait rappeler. L'autre chose, c'est les écrans. Les écrans, malheureusement, et ça, c'est vraiment un manque de bol, hein, si j'ose dire, c'est que tous les écrans aujourd'hui, ils émettent la lumière qui est la lumière de l'aube. Et quand on regarde un écran avant d'aller se coucher, on dit à son cerveau, c'est l'aube, il est l'heure de se lever. C'est vraiment compliqué d'aller dormir après ça. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais rappeler pour l'adolescence qui sont fondamentaux quand même.
Alors revenons à notre question de départ. Et si les humains n'avaient plus besoin de dormir ? Quand on a parlé de besoin, on a tout de suite parlé de plaisir. Ah oui, mais voilà, on peut ne pas avoir besoin de dormir, mais on voudrait continuer à avoir le plaisir de dormir. On a quand même parlé entre nous du besoin, pourquoi on a besoin de dormir. Maintenant, supposons que nous n'ayons plus besoin de dormir, que le plaisir de dormir nous vienne de temps en temps. Comment évoluerait la société comme ça ? Est-ce que la science-fiction a traité cette question ?
Alors, il y a une des couvertures qui circule sur le slideshow qui est d'un bouquin de Nancy Kress qui s'appelle L'une rêve, l'autre pas, qui est un bouquin très court, hein, il doit faire une centaine de pages, je l'ai lu hier, hein, pour vous dire, en entier, qui traite le sujet, en fait, on a des personnes qui sont modifiées génétiquement avant leur naissance pour ne plus avoir besoin de dormir. Il se trouve que, également, ce sont des surhommes, ils sont super intelligents, ils sont super forts, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont extraordinaires. Ils ne vieillissent pas, en plus. On le découvre au fur et à mesure, désolé, j'ai spoilé deux tiers du bouquin. Et ça se passe très très mal pour eux. Pourquoi ça se passe mal pour eux ? Parce que déjà, c'est des personnes qui viennent de catégories sociales professionnelles très élevées. Donc, c'est des gens qui sont déjà très riches. Ils héritent d'une grande fortune. En plus, ils sont très forts. Ils sont premiers dans toutes les universités qu'il y a. Les meilleurs boulots, c'est eux qui les ont. Donc, les meilleurs revenus, c'est eux qui les ont. Et globalement, il y a une réaction de la société contre eux qui en fait des parias et ainsi de suite. Donc, voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ne dorment pas. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ? Eh ben, ils étudient. Ils étudient, c'est tous des enfants, ils sont à l'école. À 4 ans, ils lisent des bouquins de philosophie. Ils apprennent plus vite, ils apprennent plus fort. Ils sortent de l'université à 12 ans avec mention. Quelque part, alors c'est un très bon bouquin. Quelque part, j'ai trouvé que cette approche était un petit peu réductrice. Parce que c'est des enfants qui, visiblement, ne savent pas s'amuser. Et c'est un peu triste de voir. Alors, quand c'est des enfants, plus tard, on les voit adultes. Et c'est pareil, ils travaillent 20 heures sur 20, sur 24. Et les 4 heures qui restent, c'est bien parce qu'il faut manger, quoi, une fois de temps en temps. Et je me dis que, finalement, le traitement de ce qu'on ferait réellement... Et pas extraordinairement bien sorti. Il y a un autre texte qui circule également, qui est sur une problématique légèrement différente, qui est de Cory Doctorow, Essence and Tribe, qui traite le même sujet d'une manière un petit peu différente et un peu plus amusante, qui est que les gens ont toujours besoin de dormir. Par contre, ils vont se connecter au réseau pour simplement discuter avec les gens qui sont proches d'eux culturellement, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont complètement déphasés, complètement décalqués, parce qu'ils ne dorment pas la nuit, ils dorment le jour, sauf que non, parce qu'il faut bien aller bosser. C'est des gens qui sont en manque de sommeil chronique, et ce genre de choses. Donc, je me dis, si ces personnes-là, si on faisait la fusion des deux, que les personnes de Bookend Doctorow n'avaient pas besoin de dormir comme ceux de Cress, quelque part, ce serait le meilleur des mondes pour eux. Et quelque part, ce seraient des gens qui seraient plus heureux aussi, je me pense.
Olivier, en préparant un petit peu cette table ronde, vous me disiez que Wonder Man, qui n'a pas besoin de dormir, et pour cause, il est déjà mort.
Ouais.
Il s'ennuie beaucoup. Il s'ennuie, du coup.
Oui, c'est un personnage Marvel qui n'est pas forcément super connu en France, mais bon, les amateurs doivent connaître. Il meurt au bout d'un moment, Yarnay. Bon, c'était un truc fumeux pour ramener un méchant, hein, comme ils font d'habitude. Et il se retrouve à ne plus avoir besoin ni de respirer, ni de manger, ni de dormir. Et quand les autres dorment, ben, il s'ennuie. Alors il se met dans un caisson et il attend, ou il s'occupe en attendant que les autres se réveillent. Mais globalement, il s'ennuie. Après, dans les Marvel, il y a le problème de l'ennui quand on ne dort pas. On le retrouve avec Vision qui n'a pas besoin particulièrement de dormir, ou Machine Man qui est un robot qui n'a pas besoin de dormir non plus, mais qui se débranche de temps en temps pour faire comme tout le monde, parce que socialement, il est déjà c'est un robot, alors socialement vous imaginez comme il est décalé, mais en plus la nuit, il n'a rien à faire, quoi. Donc ça, et en fait ça me faisait penser que avec tout ce que j'ai lu sur des gens qui dorment pas, dans les littératures horrifiques il y en a pas mal, à chaque fois c'est soit socialement pas bien vu, comme tu as dit tout à l'heure, soit c'est carrément la porte ouverte aux forces du mal, à la folie, à tout ce qu'on veut. Mais je ne me rappelle pas avoir vu un texte où c'était vraiment la fête de ne pas dormir. Jamais j'ai lu ça. Alors si quelqu'un dans la salle a un titre à donner, je prends.
Vas-y.
Juste dans un registre un peu plus amusant, Terry Pratchett et Neil Gaiman ont écrit un bouquin fabuleux qui s'appelle « De bons présages », qui est un de mes livre préféré de toute ma vie. Et dedans, il y a un ange et un démon, ce sont les deux personnages principaux, si on veut. Et comme ce sont un ange et un démon, ils n'ont pas besoin de dormir. Sauf que le démon, qui est quelqu'un de plutôt intelligent, il s'est rendu compte que c'est vachement chouette de dormir. Et il fait bien exprès de dormir, bien ses 8 heures par jour, parce que c'est tellement fun de dormir. Et il dort quasiment tout le 14e siècle, je crois, parce que c'est un siècle complètement ennuyeux. Donc il dort tout ce temps-là. Et je me dis que lui, il a tout compris.
Et il est un peu tôt pour faire circuler un micro, mais quand même, ça m'intéresserait de savoir si vous ne pouviez pas dormir, qu'est-ce que vous ferez ? Parce que là, on est tous du même avis. On aimerait bien continuer à dormir quand même. Est-ce qu'il y a un micro qui peut arriver jusque là? Je ne suis pas sympa avec ceux qui passent les micros parce que c'est un peu plus tôt que la normale, mais est-ce que... Alors, peut-être que c'est trop serré, c'est ça? Il n'y a pas assez de place pour faire passer quelqu'un avec un micro? Non. Ouais, voilà, c'est ça. Et on n'a pas la place. Désolée. Ou non, même pas. Je n'aurai pas le temps. Mais... Non, on ne pourra pas circuler. Vous êtes nombreux, c'est super. Mais on n'aura pas votre avis sur ce coup-là. Est-ce qu'on a une piste pour nous empêcher de dormir sans subir les effets néfastes de la perte de sommeil?
Oui, il y a des molécules qui ont été mises au point, qui marchent bien dans... au moins dans 50% des cas, dans les grosses pathologies d'hypersomnie, c'est-à-dire des gens qui dorment vraiment trop et qui ont besoin d'être éveillés de temps en temps. Ces molécules sont vendues sur ordonnance, sont compliquées à obtenir, bien sûr, mais elles marchent relativement bien. On s'aperçoit qu'elles sont détournées de leur usage final, bien sûr, hein, qu'elles sont détournées dans le monde sportif, qu'elles sont détournées aussi, surtout dans le monde des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de brûler la vie par les deux bouts pour avoir l'impression d'exister, de mon point de vue. Hein, mais bon. mais on s'aperçoit que très rapidement, il y a une espèce de mécanisme comme ce qui se passe pour les drogues. Et quand ils veulent s'arrêter, c'est très compliqué. Et on en trouve beaucoup maintenant dans les centres de désintoxication. Et donc, malgré l'absence d'effets physiologiques connus pour l'instant. Mais c'est... Voilà. Donc ça, c'est... Il y a une ou deux drogues qui ont été développées, notamment par le professeur Michel Jouvet, qui est décédé il y a une quinzaine de jours, qui est un des grands pionniers de la recherche sur le sommeil. Mais voilà, et puis l'avenir, c'est bricoler les gènes. Voilà, pour avoir de l'éveil en absence de sommeil, quoi, en absence d'un besoin de sommeil, de fatigue qui s'accumule, etc. Voilà. Sinon, il y a les vieilles molécules qui ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les amphétamines, etc., qui provoquent un éveil. Qui, quand il s'arrête, fait beaucoup de sommeil, en fait. On rattrape le sommeil qui a été privé. Sinon, on devient fou, quoi.
Ouais, et du coup, dans la société, c'est quand même très valorisé de dormir moins. On a toute une catégorie de population qui prend des amphétamines, qui se lance dans la finance, par exemple. C'est très valorisé. On a une société qui donne une pression pour dormir moins. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a perdu ces 7h30 de sommeil
c'est
en 50 ans?
Oui, mais je pense que ça, c'est un petit peu derrière nous. Moi, du moins, j'espère que c'est derrière nous. C'est surtout les années 80-90 qui ont vu, associées à une drogue que je n'ai pas citée, la cocaïne, qu'on trouvait énormément dans les salles d'échange, de banques, etc. Mais je pense que c'est derrière nous parce qu'on a vu la plupart d'entre eux vont dans le mur avec ces drogues. Et ils gagnent beaucoup d'argent, mais il n'y a pas le plaisir du gain de l'argent, finalement. Bon, après, on va laisser les...
Après, c'est une philosophie.
Enfin, chaque fois que je dis autour de moi que j'ai besoin de 9-10 heures pour être en forme... Tout le monde me dit « Oh là là, mon pauvre, comme si j'avais une maladie, hein, entre nous. Hein. » Et comme je dors que 7 heures, en fait, je suis toujours complètement claqué et je suis peut-être, comme je disais, une porte ouverte aux forces du mal maintenant. Allez savoir. Méfiez-vous.
Alors, je voudrais revenir sur le rôle du rêve. On a parlé aussi, justement, dans cette volonté d'être toujours plus efficace... du rêve éveillé, du rêve guidé pour améliorer ses performances. Ça marche vraiment, ça c'est...
Vous voulez sûrement parler du rêve lucide, qui est probablement qu'un certain nombre dans la salle en ont déjà fait. En fait, un rêve lucide, c'est un rêve au cours duquel on se rend compte qu'on est en train de rêver. Et puis, y en a certains qui ont la chance de, quand ils se rendent compte qu'ils sont en train de rêver, peuvent tirer parti de cette prise de conscience et diriger et prendre le contrôle de certains éléments du rêve et du scénario. Et alors, c'est assez marrant, ce phénomène. Il est assez peu répandu. Du coup, si je me souviens bien des chiffres, c'est 50% de la population qui a déjà fait un rêve lucide. Est-ce que vous pourriez lever la main dans la salle, ceux qui ont déjà fait des rêves lucides ? Ah, j'ai l'impression que c'est à peu près
c'est
ça.
C'est beaucoup, ouais.
On est juste. Et alors, du coup, c'est à peu près 50% qui ont déjà fait un. Mais après, si on veut s'intéresser aux personnes qui en font souvent, là, il y en a beaucoup moins. Je pense que ça tombe aux alentours de 12% de la population pour des rêves lucides fréquents de l'ordre d'une fois par semaine. Et du coup, si on voulait les étudier en laboratoire, une fois par semaine, c'est très peu fréquent et du coup, c'est pas suffisant et du coup, c'est très difficile. Mais du coup, c'est intéressant, cette caractéristique assez rare, en tout cas du point de vue de la recherche. Après, du point de vue de tout un chacun et de l'expérience subjective que ça représente, effectivement, en général, j'ai l'impression qu'il y a un engouement toujours croissant pour ce phénomène-là, parce que j'ai l'impression que c'est perçu comme une espèce de graal absolu au-delà du jeu vidéo immersif 3D. On ne peut rien faire de mieux, en fait. On est James Bond, en fait. On fait ce qu'on veut et tout est possible. Donc, il y a un côté distrayant absolument fantastique. Et j'ai l'impression que c'est un des motifs principaux, en fait, de la recherche de l'augmentation de la fréquence des rêves lucides. C'est pas très facile d'augmenter leur fréquence. Et j'aurais tendance à pas vous le recommander parce que toutes les méthodes qui permettent d'augmenter la fréquence des rêves lucides ont tendance à déstructurer et abîmer le sommeil. Et donc, comme vous l'avez très bien compris maintenant, il ne faut pas mal dormir ou pas assez dormir, il faut bien dormir. Et du coup, le peu de recherche qui a été faite sur ce phénomène-là a tendance à montrer que c'est une sorte de raté de réveil. En fait, c'est une transition qui ne se passe pas bien. Il y a certaines parties du cerveau qui se réveillent alors que d'autres restent endormies, si bien que ça fait une dissociation comme ça qui est un peu inhabituelle et distrayante, mais qui n'est pas faite pour, j'ai envie de dire. Donc c'est probablement pour ça que c'est si rare, c'est probablement pour ça que c'est difficile à entraîner, et c'est probablement pour ça que c'est une bonne idée de ne pas faire tout le temps des rêves lucides, parce qu'on serait tout le temps dans une sorte d'état cérébral dissocié qui n'est pas fait pour, donc qui a probablement des conséquences imprévisibles. Donc j'ai envie de dire, profiter d'un rêve lucide quand il arrive, très bien. Mais moi, j'ai surtout envie de faire de la publicité pour le vrai rêve, dont on n'a pas le contrôle, que je trouve beaucoup plus distrayant, parce que le contrôle, on l'a toute la journée. Et vivre en première personne ces histoires absolument invraisemblables sur lesquelles on n'a pas le contrôle, je trouve que c'est ça la part de magie du rêve. Et d'être convaincu que ce soit pour de vrai. Et du coup, tout le bénéfice du réveil en disant « Oh, mon Dieu, heureusement que c'était un rêve », c'est... Enfin bon, voilà, c'est un autre plaisir, mais je trouve qu'il est tout aussi important.
Est-ce que c'est pas ça qui se trouve aussi dans cette question « Et si l'homme pouvait ne pas avoir besoin de dormir ?» C'est un désir de tout maîtriser. C'est-à-dire, quand on dort, on débranche, quoi. On maîtrise plus ce qui se passe. Est-ce que, oui, dans la science-fiction, il n'y a pas ce fantasme aussi du super-héros qui maîtrise tout, qui arrive à maîtriser sa vie, sa société ?
Alors, si, tout à fait. Bon, là, je vais faire ma pub. J'ai écrit une nouvelle il y a 2 ans, 3 ans, dans laquelle l'un des éléments de background est que les gens changent complètement de chronologie. Enfin, les gens qui le veulent changent complètement de chronologie. Ils décident de compter le temps, non pas en heures, minutes, secondes, etc., mais en comptant le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. Les informaticiens comprendront pourquoi. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, on va se dire, mais pourquoi dormir 8 heures toutes les 24 heures ? Ce sont des unités qui n'ont absolument aucun sens. Si je veux prendre le contrôle de ma vie, et si je suis allé jusqu'à apprendre que, au lieu de dire 17 minutes, je vais dire 1000 secondes, ou une kiloseconde, c'est aussi pour pouvoir prendre le contrôle de ma chronologie, de ma temporalité. Et donc, un des éléments que l'on trouve dans ce texte-là est que les gens dorment, ou en tout cas se reposent, selon des moments qu'ils décident entièrement eux-mêmes. Et typiquement, ils vont dormir beaucoup de façon plus fréquente, mais moins longtemps à chaque fois, par exemple.
Donc ça veut dire, encore une fois, qu'ils dissocient leur fatigue et leur besoin de dormir.
Absolument. C'est ça. C'est pour ça que je posais la question aussi tout à l'heure. C'était la fatigue, on l'accumule malgré tout. Ne pas dormir, certes, pourquoi pas, mais il faut quand même se reposer à un moment donné, il faut quand même régénérer un petit peu ce qu'on a. Sinon, on est Superman. Hein. Quelqu'un qui ne se fatigue jamais, quel que soit l'effort qu'il fait, c'est plus qu'un super-héros à ce niveau-là.
Mais est-ce qu'il existe un moyen biologique de se reposer sans dormir ?
Par définition, quand on s'arrête, quand on s'assoit, etc., on se repose, mais toutes les études montrent qu'on se repose au moins 3 fois mieux quand on dort que quand on est simplement assis, même si assis à méditer ou assis à faire. Donc ça, c'est, mais pas n'importe quand. Et c'est là, effectivement, la physiologie, elle enlève énormément de libre arbitre, et c'est ça qu'on peut regretter. Moi, je pense qu'il vaut mieux connaître pour maîtriser que essayer absolument de tout maîtriser soi-même. Et ce que la physiologie nous apprend, c'est qu'on est programmé pour dormir la nuit, pour être réveillé le jour, que le sommeil est beaucoup plus efficace quand on dort la nuit aux horaires où on est programmé pour ça, et que dormir n'importe quand, c'est gâcher son temps, en fait.
Alors, petite chose amusante, dans mon jeune temps, j'ai passé quelques années en Suède, où, comme on est relativement au nord, l'été, le soleil se couche. Il se couche un petit peu, mais bon, le ciel reste bleu. Enfin bref, on peut se balader dehors en pleine nuit, enfin à 4h du matin, à 2h du matin, on voit quoi, hein, y a pas besoin d'éclairage public. Et l'hiver, par contre, le soleil se lève vers 9h30, il se couche vers 13h30. Ça a une influence énorme sur comment on se sent, tout simplement. C'est pas juste de la fatigue. C'est on n'a pas d'énergie, on n'a pas de volonté, enfin l'hiver je parle, c'est assez terrible. Et on se dit quand même que malgré tout, on impose un rythme de travailler 8 heures par jour, que ça soit en plein milieu de l'été où il y a quasiment 20 heures de soleil par jour, ou l'hiver où il y en a 4. Quoi. Et on ressent physiquement ce décalage de manière extrêmement intense.
Oui, mais la physiologie répond à ça. Les gens du Nord, les Inuits, etc., dorment pratiquement pas l'été et dorment énormément l'hiver. C'est leur horloge biologique qui est programmée comme ça, aidée par la mélatonine qui dépend de la stimulation lumineuse. Donc quand il n'y a pas de stimulation lumineuse, il y a beaucoup, beaucoup de mélatonine. Les conditions pour récupérer sont maximales, les conditions pour dormir sont maximales. Et si on suit le besoin physiologique, c'est comme ça que ça marche. Mais même sous nos latitudes, ici à Nantes, on a besoin de dormir 2 heures de moins en moyenne l'été que l'hiver. On ne s'en rend pas compte, mais ça explique pourquoi, quand on vit toujours sur le même rythme, on est fatigué à l'automne, on a des dépressions saisonnières, etc., qui se manifestent simplement parce qu'on aurait besoin de plus dormir. Et puis, on ne comprend pas qu'on pourrait aller se coucher à 10 heures du soir, même avant le changement d'heure. Et voilà.
Donc si vous avez lu un livre qui s'appelle L'histoire buissonnière de la France, que je vous conseille, il y a un passage justement sur le sommeil autrefois, et où dans le nord de la France ou dans les vallées de Savoie ou des zones reculées comme ça, les gens allaient hiberner carrément. Il y avait des espèces de cités souterraines où on passait son temps à dormir, on sortait 2 heures par jour, le reste on passait l'hiver à dormir. On se levait, il y a 2 mètres de neige dehors. Bon, on bricole une horloge, d'où les horloges comtoises d'ailleurs. Le temps de veille qui est de 3-4 heures, puis le reste du temps, on le passe complètement à dormir. Et ça m'avait complètement. Enfin, c'est là qu'on voit la transformation sociale du sommeil. Quoi. Ces choses-là existaient avant, ont complètement disparu. Et étaient, en gros, les gens se calaient sur la météo extérieure et dormaient. Parce qu'il ne faisait pas beau, il faisait moche, il n'y avait rien à faire, donc on dort. Et ils arrivaient à dormir 14-16 heures par jour. Quoi.
Oui, c'est, bon, on souffre énormément d'avoir découvert la lumière artificielle. De toute façon, c'est le problème.
Éteignez-moi ça.
Alors, Damien Daven, vous me disiez aussi, en préparant la table ronde, que vous étiez un supporter de la sieste.
C'est dans la logique de tout ce qu'on a dit. Mais en plus, la sieste est programmée par notre horloge biologique. Comme le sommeil est programmé la nuit, il est programmé, et ça, c'est ancestral. C'est peut-être ce qui nous a fait ce qu'on est. Parce qu'à l'époque où l'Homo sapiens est apparu sur Terre, c'était une nécessité. Il était extrêmement actif. Et le sommeil en milieu de journée était nécessaire pour couper la journée en deux. Et on a fait, et on fait toujours des études dans mon laboratoire sur la sieste. Et ça se confirme. Chaque fois qu'on fait des études sur la sieste, les personnes qui font la sieste sont presque deux fois plus efficaces pendant les heures qui suivent la sieste par rapport au moment où ils ne font pas la sieste. C'est-à-dire qu'une sieste, mais une vraie sieste, et une vraie sieste, ça fait toujours sourire, mais il faut s'entraîner à faire la sieste. Une vraie sieste, c'est un quart d'heure, 20 minutes, programmée régulièrement, juste après le repas, et au moment où l'horloge nous programme pour ça. Et ces siestes sont très, très efficaces. Et bon, je pense que ça commence à revenir dans la société aujourd'hui. On commence à voir des siestes qui sont prises sans que la personne qui fait la sieste soit montrée du doigt, quoi. Mais ça fait partie aussi vraiment du plaisir de dormir.
Là, on voit aussi, c'est également culturel, la sieste.
C'est culturel, bien sûr, parce que dans les pays où il fait chaud, ça permet d'éviter d'échapper aux grosses chaleurs. Mais il n'y a pas, finalement, la plupart des cultures ont choisi une courte sieste. À part l'Espagne, qui a choisi de couper pratiquement la nuit en deux, la moitié du sommeil la nuit, la moitié du sommeil en début d'après-midi, il n'y a pas beaucoup d'autres pays comme ça.
Est-ce que c'est aussi efficace qu'une nuit en consécutif de... On a les travailleurs de nuit, par exemple les marins, qui découpent leur nuit, leur journée en heures d'éveil et en heures de sommeil. Est-ce que c'est aussi efficace que d'avoir une nuit de 8 heures d'affilée seul bloc ?
Non, on est vraiment programmé pour dormir la nuit. Et quand il y a nécessité, on peut s'adapter quelque temps. Mais le marin, il part en mer, il revient toujours à terre, il retrouve son sommeil normal. Après, on peut optimiser le sommeil, mais le marin, il dort quand même plus la nuit que le jour. Il fait la sieste aussi. Toutes les études montrent qu'un sommeil discontinu, sauf par la sieste, un sommeil discontinu est moins bon qu'un sommeil continu. C'est de fractionner. Alors, en ce moment, il y a des courants à la mode où on essaye de raccourcir son temps de sommeil en se réveillant et en fragmentant. Bon, je doute que ça ait beaucoup de succès. Mais bon.
Je voulais poser une question puisque moi j'ai un micro. J'avais entendu l'explorateur qui explorait le Grand Nord là, derrière un traîneau, j'oublie tout le temps son nom. Vanier, merci, qui disait qu'il dormait très peu pendant ses périples et que du coup, au bout d'un moment, il se mettait à avoir des hallucinations visuelles et auditives qui lui ont fait d'ailleurs sauter du traîneau en marche une fois ou deux. Il y a eu des recherches là-dessus ou...
Il y a beaucoup de récits. Moi, je suis dans une fac de sport et j'ai beaucoup travaillé avec les navigateurs solitaires. Bon, tous ceux qui... Bon, la plupart ont vécu ce genre de choses, de se croire au ponton et de descendre du bateau en marche. On a intérêt à avoir un bout à ce moment-là. Hein. Mais ça arrive à beaucoup. Et peut-être que des grands disparus comme Alain Colas ou ça peut venir de là. Hein. Qui sont vraiment descendus de leur bateau au milieu de l'océan. Parce que les hallucinations, ça arrive très vite. Enfin, on peut tous s'amuser à rester éveillé. D'ailleurs, ça se fait hein, sur les côtes, etc. Des stages de 2-3 jours, on ne mange pas, on ne dort pas beaucoup, on marche. Et là, on arrive à un état qui est bien mieux que le cannabis, hein, je vous le garantis. Hein.
Alors, dans la littérature, je suis quand même surprise que le sommeil ne soit pas un thème plus traité que ça n'est. Justement, cette question expérience de pensée, et si l'homme pouvait se vivre en dormant moins, finalement, elle n'est pas si traitée que ça. Vous avez une explication de ça ? C'est naturel au point qu'on ne se pose pas vraiment la question ? Enfin,
j'ai pas trop réfléchi à la question pour les autres. Hein. À titre personnel, ça manque un peu d'action, le sommeil. Alors du coup, j'ai tendance à pas en mettre beaucoup. Et puis, par contre, dans un de mes romans, enfin, j'en ai pas écrit non plus des douzaines, hein, je vous rassure, dans Évariste, il y a un passage où je force le héros à pas dormir. En plus, il tourne au café beaucoup trop concentré. C'est un vrai sirop, une horreur. Et donc, il passe 7 jours à pas dormir. Et là, ça devient intéressant parce qu'il se met à faire n'importe quoi, essayer de dormir, mais il peut pas. Il se met plus les migraines, donc il se met à être de mauvaise humeur. Bon, ça peut être intéressant. Après, d'un point de vue sociétal, moi, je suis plus intéressé en fait pour les états d'éveil, en fait, les différents états d'éveil que les différents états de sommeil, justement pour des raisons d'action et de perception qui sont, d'un point de vue narratif, pour moi, plus intéressante.
Après, effectivement, je ne sais pas pourquoi le sujet du sommeil n'est pas traité énormément. Ce qu'on voit traité de manière un peu plus souvent, c'est des changements de chronologie où on va avoir... je parlais tout à l'heure de Cory Doctorow. Il y a également Chuck Palahniuk qui a écrit un bouquin tout à fait remarquable qui s'appelle Pest, je crois, en français. Rant, en anglais. Où l'un des éléments, je ne parle pas du tout du bouquin parce qu'il faut vraiment le découvrir, lisez-le, il est bien, c'est que les cités étant tellement peuplées, les gens font du time-sharing, donc ils habitent dans un appartement le jour ou la nuit. Et donc, selon qu'ils sont désignés comme étant du jour ou de la nuit, ils vont avoir le droit de dormir le jour ou la nuit. Puis, bah, s'ils dorment le jour, forcément, ils travaillent la nuit. Et donc, se forment des cultures ou des sous-cultures qui coexistent complètement d'un certain point de vue vertical, où la moitié de la population va être en train de travailler pendant la nuit, pendant que l'autre moitié est en train de dormir. Et ça s'échange 12 heures plus tard. Et c'est finalement deux cultures qui sont complètement séparées, et c'est assez remarquable la façon dont c'est traité dans ce bouquin-là.
Est-ce que c'est pas déjà un petit peu le cas, Damien Daven? On a de plus en plus dans les villes, par exemple, besoin de travailleurs de la nuit sur les routes, par exemple, pour éviter de couper la circulation pendant la journée. Donc on a des ouvriers qui travaillent la nuit pour pouvoir préparer la ville le jour, et des populations qui se croisent comme ça entre le jour et la nuit.
Oui, on a même autorisé les femmes à travailler la nuit. C'est un net progrès. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que on sait que, de toute façon, on n'est pas fait pour faire autre chose que dormir la nuit. On est programmé pour ça. Bien sûr, la société et la lumière, parce que sans la lumière, on ne pourrait pas travailler la nuit, nous permettent de travailler la nuit, d'avoir un gain de productivité, d'avoir éventuellement une nécessité absolue, parce qu'un haut fourneau, ça ne s'arrête jamais. Si ça s'arrête, il faut des années pour le remettre en marche, etc. Mais on sait maintenant que c'est catastrophique parce que on réduit plus de 10 ans de travail posté, c'est-à-dire travail qui empiète sur la nuit, sur le sommeil. C'est une très grosse... C'est d'espérance de vie perdue, énormément. Et ça, c'est tous les travaux le montrent. Donc on devrait pas autoriser à travailler de nuit toute la vie. Mais bon, pour l'instant, c'est compliqué parce que c'est aussi du salaire en plus, c'est aussi des choses, des conditions, du confort parfois en plus, où on imagine que c'est du confort en plus, où c'est du confort en plus quand on est jeune, mais c'est très dur de s'adapter en vieillissant. Et après, à un moment, ça devient complètement insupportable. Bon, mais bon, c'est catastrophique de travailler la nuit. Je voudrais simplement... Mais c'est le café, c'est une courbe en U. Il arrive un moment où on est effectivement très éveillé, on n'arrive pas à dormir, mais si on en prend plus, on va retomber dans le sommeil rapidement.
C'est, du coup, je voulais rebondir, parce que j'ai une question à mon tour, chacun son tour. Dans les usines qui travaillent en 3-8, la façon dont c'est organisé généralement, c'est que c'est des programmes qui tournent. Donc une équipe va être du matin une semaine, la semaine d'après elle va être de l'après-midi, et la semaine encore après elle va être du soir. J'ai fait ça un été quand j'étais étudiant. À la fin du mois, j'ai fait ça qu'un mois, j'étais complètement vanné. À cause du changement perpétuel. Et il y a des gens qui font ça toute leur vie. Enfin,
ils ne tiennent pas toute leur vie.
Et je me demande d'où vient cette organisation qui tourne ? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus ? Parce que j'imagine que derrière, les maladies professionnelles qui en découlent doivent être très nombreuses et très coûteuses. Voilà, je me demande si c'est l'organisation, on va dire, idéale. Étant donné la nécessité de faire tourner l'usine 24 sur 24, bon. Qui est encore autre chose.
Ah, c'est pas encore maladie professionnelle et c'est bon, il y a beaucoup de résistance à ce que ça le devienne. Effectivement, il y a eu beaucoup d'études de fait dessus, mais il y a aussi beaucoup de résistance sociale parce que c'est parti du principe que tout le monde devait être égaux et que donc celui il y a un poste. Mais c'était avant qu'on connaisse les gènes de la rythmicité biologique, etc. Donc tout le monde devait subir le poste de nuit ou tout le monde devait subir le poste du début de la journée. Bon, c'est pas le cas en fait. On est inégaux devant ça. Et puis on pourrait organiser le temps en fonction de notre chronotype, c'est-à-dire les gens du matin pourraient travailler très tard, très tôt le matin. Les gens du soir pourraient travailler très très tard le soir. On avait fait une expérience, et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est dans les années 90, en Bourgogne, chez Peugeot, à Montbéliard. Et on avait fait une expérience, et ça marchait très bien de mettre vraiment les gens du soir pour travailler la nuit, les gens du matin qui commençaient relativement tôt. Et y avait une diminution des accidents du travail, des gens qui restaient pas chez eux, etc. Mais les syndicats se sont élevés contre ça et ils sont revenus à des choses plus traditionnelles, plus classiques, etc. Et c'est très compliqué à faire changer. Mais il y a des professions comme ça où on n'arrive pas à faire changer. C'est les conducteurs de train, c'est les sages-femmes, etc. Parce que elles ont l'impression que ça s'est toujours fait comme ça. Et puis, les conducteurs de train, c'est parce que le fait de découcher, c'est 30% du salaire en plus. Donc, voilà.
Et j'ai envie d'ajouter aussi, adapter le planning des adolescents et les faire commencer pas à 8 heures le matin, mais plutôt à 10. Il y a beaucoup de médecins du sommeil qui militent pour faire ça. Qui essayent d'expliquer que c'est pas parce qu'ils sont fainéants, c'est parce que c'est la biologie qui fait ça, et il n'y a personne qui écoute, et du coup, ça met tout le monde en difficulté. C'est bien dommage.
Donc, il y a des progrès encore à venir. Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais vous annoncer un film, The Box, qui va commencer à 18h45. J'y serais allée si je n'avais pas une table ronde à 19h. En salle d'une, ce sera sûrement intéressant. Et puis, vous retrouvez les auteurs de cette table ronde à la librairie pour des signatures. Merci, à bientôt. Merci.